Je me souviens.
Je me rappelle. Tu te souviens ?
Elle se rappelle.
Elle se souvient.
Il se rappelle.
Ça a été comme une lumière dans la nuit, un flash. Nous avons tous vécu un événement marquant qui a été un accélérateur de vie.
Je me souviens, je me rappelle.
Amis auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission qui est une émission de rentrée. C'est la rentrée des classes et on va la faire avec la directrice des programmes qui est Élodie Gadiolet. Non seulement, bonjour Élodie.
Bonjour.
Élodie, non seulement vous êtes directrice des programmes, mais vous avez également deux émissions à l'antenne. Est-ce qu'on pourrait en parler ? Est-ce qu'entre toutes ces activités, il y aurait peut-être un fil rouge ?
Alors, le fil rouge, c'est que je suis là pour coordonner à la fois les programmes, mais pas que, en fait. L'idée de la radio telle qu'on la voit ici à Radio B, c'est que tout le monde met la main à la pâte, tout le monde a sa place à l'antenne, ça c'est vraiment le message qu'on a envie de faire passer, et du coup tout le monde contribue aussi à produire pour nos ondes. Donc effectivement, moi mon travail il est plutôt administratif à la base, je suis plutôt là pour faire des dossiers de demande de subvention, des budgets, enfin des choses qui font pas trop rêver, mais quand on a un studio de radio juste en bas de son bureau, on a forcément envie de tester, de parler dans le micro. Et donc j'anime l'émission Quoi de neuf doc une fois par mois, qui va aller en co-animation avec une médecin qui s'appelle Diala Nogier. Et chaque mois, on va aller rencontrer un médecin différent pour parler d'un sujet de santé. Et puis l'autre émission, c'est il y a pas que le 8 mars, c'est celle-là dont vous voulez.
Il y a pas que le 8 mars.
Voilà, une émission féministe.
Voilà.
Voilà.
Et donc, entre vous avez donc ces deux activités qui, en fait, se complètent. D'un côté, donc, faire marcher la boutique, mais également être au contact des auditeurs.
Oui, alors, les émissions, ce n'est pas dans ma fiche de poste, en fait. C'est un petit plus de la radio. c'est vraiment, j'invite les auditeurs, auditrices à venir nous rendre visite. À un moment donné, on ouvre nos studios aux visiteurs. Parler dans le micro une première fois, c'est impressionnant, mais c'est vite assez plaisant. On prend du plaisir à raconter des choses, à transmettre des choses, à partager des informations. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime et que j'ai rajouté à mon temps de travail.
Alors, ce plaisir de partager, de transmettre, ça remonte peut-être à des expériences de vie que vous avez eues il y a longtemps, peut-être ?
Alors, j'arrive pas à analyser le lien entre tout ça, mais effectivement, je me suis dit que ça serait intéressant, on en a discuté tous les deux, de profiter de cette rentrée scolaire pour rendre un hommage. Alors, c'est pas un événement marquant dans ma vie, mais c'est plutôt des personnes qui m'ont marqué, qui m'ont peut-être permis d'ailleurs d'arriver ici à Radio B. Hein. Il y a peut-être eu une transmission de savoir de ces personnes. Et notamment, là, en cette période de rentrée des classes, bah, c'est une petite dédicace à tous les professeurs des écoles qui reprennent le chemin de l'école et pour qui la rentrée peut être parfois un petit peu stressante, pleine de plein de choses à gérer, effectivement. Ouais.
Les professeurs des écoles, donc il y en a qu'on comptait dans votre vie, Élodie ? Racontez-moi.
Eh bien, en fait, je me suis rendu compte l'année dernière que mon fils faisait sa rentrée en CP. Et que c'était quand même un passage assez important dans la vie d'un enfant. C'est le moment où on quitte l'école maternelle, comme son nom l'indique, assez maternante pour le coup, et on se lance vers la vie des grands. On apprend la lecture, c'est le moment aussi où on découvre un monde nouveau et aussi l'indépendance, parce que du coup, on n'a plus besoin de papa-maman pour déchiffrer les choses. Donc, c'est des perspectives qui s'ouvrent. Et ça m'a rappelé, en fait, mes souvenirs, moi, de CP. J'en ai beaucoup parlé avec mon fiston qui avait un petit peu des craintes. Donc, je lui expliquais comment ça se passait, moi, à mon époque. Et moi, j'étais à l'école de Marsonna, dans la Bresse. Et j'avais une maîtresse qui s'appelle Annie. Je me rappelle de beaucoup de choses, en fait, de sa classe, de comment on était installés, des affiches.
C'était un choc pour vous ?
C'était pas un choc parce que...
Expliquez-moi.
Alors à Marsonna, on n'était pas nombreux. Donc on était 6 élèves de mon âge. Donc ça fait pas beaucoup de... Ça fait pas une grosse classe. Donc on était vraiment toujours dans ce petit cocon L'école, c'était vraiment un cocon. C'était pas du tout un endroit choc pour moi. Enfin, je me retrouvais pas du tout dans un univers complètement différent de ce que je pouvais voir. Alors, j'allais chez la nounou, donc j'avais l'habitude d'être en collectivité. La maternelle était déjà une bonne porte d'entrée avec une professeure déjà très, très maternante. Donc non, c'était pas un choc.
Donc c'était une sorte d'autre cocon, peut-être, que la maison.
Ouais, ouais, ouais. Et puis un endroit, moi j'étais fascinée par cette maîtresse et par ce qu'elle a pu nous apporter. Je me souviens qu'on avait travaillé sur l'Asie. Et on avait vraiment fait plein de choses thématiques autour de l'Asie. On avait mangé chinois. J'avais jamais... À l'époque, c'était pas autant développé la nourriture exotique dans les rayons des supermarchés. On avait moins cette habitude de manger des trucs exotiques quand nos parents n'avaient pas des origines. Du coup, je me souviens avoir mangé des soupes, des nems, enfin avoir découvert ça, des litchis, c'était improbable, quoi. Et on avait fait une peinture dans l'école, on avait peint un dragon. On avait une intervenante qui venait nous raconter des contes autour du Japon, on s'allongeait, ça se passait l'après-midi, on s'allongeait sur des tapis et la conteuse nous racontait ses histoires. Certaines histoires, je les ai toujours en tête. C'était vraiment chouette. Je crois qu'il y en avait une, alors je ne sais pas si c'est ça le titre, L'Empereur et le Rossignol. J'ai essayé de la retrouver, mais j'ai pas réussi à retrouver cette histoire. Mais j'ai des notions comme ça de cet oiseau, le rossignol.
Donc, vous étiez à Marsouna et... Dans cette école, vous avez voyagé ?
Ben voilà, on a voyagé à travers les contes, la nourriture, le dessin. On avait aussi peint un oiseau à l'encre de Chine sur du papier, sur de la soie, sur du tissu qu'on avait roulé après en parchemin. On s'était déguisé, on s'était habillé en asiatique. Voilà, on avait des chapeaux chinois, des petites tenues. Enfin voilà, et du coup, ça, c'est vraiment le travail de la maîtresse, en fait, de nous emmener de Marsouna à l'autre bout du monde, de nous faire découvrir des pays et puis de nous faire sortir de la campagne, de ce qu'on pouvait connaître.
Donc, ouvrir un monde de possibles.
Oui, oui, oui. Et vraiment, c'était une année très marquante pour moi. C'est aussi une année où j'ai été malade. J'ai eu un purpura rhumatoïde. Bon, c'est pas très grave, mais ça m'a hospitalisée. J'ai dû être hospitalisée une dizaine de jours. Et du coup, cette maîtresse m'emmenait les devoirs et des petits mots de mes camarades. Et c'était vraiment chouette. Et j'étais contente de l'avoir arrivée à l'hôpital avec les enveloppes, les petits mots, les devoirs. Je ne voulais pas rater les devoirs, hein, surtout pas.
Oui.
Et puis elle m'a offert un roman, Le Retour de Biscotte Mulotte, que j'ai toujours.
Et est-ce que ça a été le début pour vous de la lecture, d'un goût pour l'école, pour l'apprentissage?
Ouais, moi j'adorais l'école, j'étais fascinée par l'école, j'étais fascinée par la lecture, je lisais le dictionnaire, j'avais le dictionnaire junior à la maison, et dedans il y avait beaucoup d'illustrations, donc souvent dans ma chambre, je me mettais à lire et à regarder les dessins. Et oui, vraiment la classe de CP, ça a été l'ouverture sur la lecture avec une maîtresse qui nous a permis de toucher à tout, qui nous emmenait aussi la bibliothèque de la commune était juste à côté de l'école, on allait à la bibliothèque. Il n'y avait pas beaucoup de livres, mais justement, ça donnait encore plus envie de tous les lire. Moi, mon défi, c'était de lire tous les livres de la bibliothèque de Marsouna. Bon, j'ai pas réussi. Mais...
D'accord. Et donc, l'école, c'était pas un monde à part, c'était le monde dans lequel vous vous inscriviez, ça dépassait même le cadre du temps scolaire.
Ben, en fait, dans un petit village, tout est relié. Alors, je pense que ça a évolué depuis, mais à l'époque, nos parents se connaissaient quasiment tous. La maman qui faisait la cantine, la personne qui faisait la cantine, c'était une maman. Celle qui faisait la garderie le soir, c'était encore une autre maman. Il y avait vraiment un lien de village. Et c'était assez simple, en fait. Et oui, pour nous, les enfants, il n'y avait pas de barrière, en fait. On connaissait tout le monde.
Notre monde a évolué, Élodie, et vous avec. Est-ce que vous pensez qu'on peut retrouver ce type de rencontre, de curiosité, aujourd'hui,
oui.
dans l'apprentissage?
Oui. Moi, je suis une fervente défenseuse, je ne sais pas si ça se dit, de l'école publique. Et vraiment, je milite pour qu'on reconnaisse le travail qui est abattu par les professeurs des écoles. Souvent, ils sont critiqués parce qu'ils ne font jamais assez bien ou qu'ils n'auraient pas assez de jours de travail. Voilà. Moi, je pense que c'est un métier très difficile. Je pense que les personnes qui le font ont quand même une espèce de passion, en fait, pour ce qu'elles font. Et elles sont au contact d'enfants et à qui elles ont envie de transmettre le maximum de choses. Je pense que c'est vraiment... alors, le mot bienveillant, il est un peu à la mode, mais c'est vraiment un cadre bienveillant. Après, je pense aussi, et pour connaître maintenant l'école à la ville, hein, puisque mon enfant est à Bourg-en-Bresse, je pense que c'est très compliqué. C'est plus du tout le même cadre que Marsonna, il y a 30 ans, même plus. C'est plus difficile, les enfants sont plus difficiles, les parents sont plus pénibles, je pense aussi. Mais en tout cas, moi, j'ai confiance.
L'école vous a permis de vous structurer, de faire de vous l'adulte que vous êtes, maintenant la directrice de radio que vous êtes. Beaucoup d'enfants, pour autant, donc, n'ont pas la même vision de l'école, ne l'appréhendent pas de la même façon, ont souvent des difficultés. Comment vous expliquez votre position par rapport à eux, à leurs difficultés?
C'est difficile à expliquer. Je pense que moi, je rentrais aussi dans le cadre de ce qu'attend l'éducation nationale. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Il y a quand même un cadre assez figé de l'éducation nationale, notamment par exemple le système de notation qui fait que les bons élèves, ce seront toujours des bons élèves, ils auront toujours les bonnes notes. Et puis ceux qui n'arrivent pas à suivre, tant pis pour eux. Et puis, alors, c'est un gros raccourci. Donc, il y a ce truc. Moi, je passais dans les cases où je cochais toutes les cases, où tout allait bien. J'étais gentille, j'avais des bonnes notes, je suivais bien. J'étais la chouchoute, quoi, comme on dit vulgairement. Pour les autres enfants, je pense qu'effectivement, c'est plus compliqué. Mais comme je disais tout à l'heure, je crois vraiment que les profs ne sont pas là pour... blâmer les enfants, enfin, j'espère pas. Et je crois que c'est aussi en train de changer. J'ai l'impression que l'éducation nationale a tendance aussi à un peu remodeler quand même sa façon de voir les choses. Aujourd'hui, on va parler de compétences, mais on va aller chercher d'autres compétences que les compétences être bon en orthographe, etc. On va aussi chercher les compétences de comportement, etc.
Est-ce que vous pensez que, justement, dans votre initiation à l'école, il n'y avait pas vraiment de cases, vous étiez 6, vous étiez ensemble, et que donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y a eu progressivement peut-être des cases qui se sont faites, où se sont inscrits les enfants, et que ces cases sont en train de s'ouvrir?
Je ne sais pas, parce que je pense qu'il y a toujours eu d'un côté les bons élèves, et puis de l'autre les moins bons, on savait qu'ils étaient moins bons, surtout qu'il y avait toujours ce système. Enfin, moi, j'ai connu ça plus tard, après au collège, où on rendait parfois les copies en ordre de notes. C'est quand même assez humiliant comme système. Donc on mettait soit les plus nuls au départ, enfin les plus nuls selon la notation, hein. Et puis au fur et à mesure on montait les notes, et puis ou alors on faisait l'inverse, d'abord les bonnes copies et à la fin les mauvaises copies. Ça a toujours existé. J'ai pas l'impression, enfin je pense pas que ça existe encore, ce genre de truc aujourd'hui. Ça me semblerait un peu bizarre que des profs d'aujourd'hui continuent à faire ça.
Donc, il y a eu des progrès de réaliser dans ce sens-là.
J'imagine.
Alors, aujourd'hui, donc, Élodie, vous êtes directrice des programmes. Est-ce qu'on trouve peut-être le souci de transmettre que vous avez, dont vous avez bénéficié donc, en tant qu'élève à l'école?
Nous, à la radio, on pratique des ateliers radio. Donc, on va au contact des publics, quels qu'ils soient, pour transmettre des connaissances, nos connaissances en termes de radio. Et oui, ça, on a un peu la posture du pédagogue. Peut-être pas de l'enseignant, mais du pédagogue, avec l'idée, effectivement, de transmettre de la compétence.
Avec les voix?
Avec les voix, avec l'écriture radiophonique, avec la recherche d'informations, l'aisance à l'oral pour des personnes qui, justement, souvent, en fait, ce qui plaît dans les ateliers radio, c'est le fait qu'on déconstruit aussi les codes de l'école. C'est-à-dire qu'un élève qui ne sera pas très bon en orthographe, ça ne s'entendra pas à l'antenne. On ne verra pas les fautes d'orthographe. Du coup, il peut se lâcher et en profiter. Parfois, on a aussi des personnes qui sont très, très à l'aise à l'oral, mais qui ne vont pas trop réussir à l'écrit. Pour la radio, c'est pas très grave.
Donc, pour que les voix s'expriment et qu'une autre forme donc, de, de culture puisse avoir libre cours. Radio B, c'est important.
Pour moi, c'est important. En tout cas, je trouve qu'on est dans notre mission, en tout cas, d'aller au service des citoyens et de les valoriser, peu importe l'endroit où ils viennent.
Élodie, cette émission se termine. Est-ce que vous auriez un dernier mot à nous dire?
Oui, ben voilà, à nouveau saluer le travail des enseignants. Je pense qu'il peut être vraiment déterminant et je l'entends aussi dans le côté négatif. Là, j'ai dit beaucoup de choses positives parce que moi, c'est vraiment les profs qui m'ont accompagnée, qui m'ont permis de faire des choix de parcours. Mais le rôle de l'enseignant, il peut être aussi blessant parfois. Il peut aussi marquer une vie dans le mauvais sens, dans les mauvais choix, etc. Donc voilà, je valorise cette profession dans le sens où elle a vraiment des responsabilités envers les personnes qu'elle va avoir en face d'elle.
Et bien, on termine cette émission du bon côté des choses.
Ah oui.
Merci beaucoup, Élodie.
Merci.
À bientôt, amis auditeurs, pour une nouvelle chronique. Amis auditeurs, si vous avez un souvenir marquant que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à nous le faire savoir en contactant Radio B. À bientôt.